Mais en vrai, quand il la joue, c'est pas du tout dans ces conditions-là. Il faut, en fait, j'ai failli venir vous le dire avant, mais il faut imaginer qu'ils vont, comment dire, une ligne de front, c'est que c'est, elle se met à un endroit où la guerre a décidé qu'elle se mettrait. Et donc les soldats, ils vivent dans des immeubles abandonnés, dans des caves, dans des appartements abandonnés, dans des. Et c'est là que ces gens-là vont jouer. Et c'est pas des concerts comme les autres, c'est-à-dire que la musique que vous venez d'entendre, elle a une dynamique qui est toute autre dans ce type de conditions, avec des hommes et des femmes qui sont pas du tout dans le contexte dans lequel nous sommes voilà, aujourd'hui. C'est vraiment autre chose.
Et ce soir, ils ont monté les marches. Si, c'était un temps fort avec aux côtés de Bono, côté de Sean Penn, côté de The Edge. J'imagine que ça devait être un temps extrêmement, extrêmement fort. Michel Hazanavicius, racontez-nous un petit peu la genèse de ce livre. Revenons un instant, vous êtes parti en Ukraine. C'était en novembre 2023, sans caméra, uniquement avec des carnets et des crayons pour dessiner ces magnifiques portraits dans cet ouvrage et puis recueillir effectivement tous ces témoignages, interviewer ces combattants des forces culturelles ukrainiennes.
Bon, en fait, c'est une histoire un peu longue, mais je vais essayer de la faire courte. En gros, au tout début, un peu comme beaucoup de Français, en tout cas, il y a eu un élan de solidarité envers l'Ukraine. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai organisé une vente aux enchères. Et, ce serait dommage de se blesser à Cannes. Et donc, j'ai été amené à aller plusieurs fois à Kiev. Parce que j'ai été nommé ambassadeur d'une plateforme créée par le président Zelensky qui s'appelle United 24, et j'ai rencontré Kolia dans un de ses voyages. Vous voyez l'énergie de ce jeune homme. Voilà. Et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu viennes sur le front, on fait des concerts, etc. À l'époque, les forces culturelles n'étaient pas aussi... ça n'avait pas aussi grossi qu'aujourd'hui. Et donc je lui ai dit, ok, je viens. Et donc voilà, donc je lui ai dit, bah écoute, peut-être si je viens, organise-moi des rencontres vraiment avec des gens, que je puisse passer du temps avec eux. Et j'avais donc dans l'idée de faire ce livre. Et effectivement, pas du tout un film ou un documentaire, mais un livre comme ça.
Et justement, le fait d'être venu sans caméra, avec ce troisième œil, entre guillemets, ça a peut-être permis davantage d'intimité, de confession dans toutes ces rencontres.
Oui, parce que comme je vous disais, ça se passait dans des endroits complètement... pour moi, très incongru, quoi. Et donc, quand vous êtes tout seul avec juste une interprète et effectivement un papier, un crayon, il y a une forme d'intimité qui se met vite en place, une proximité. Et moi qui ne suis pas intervieweur professionnel, et ben ce tout petit dispositif très modeste m'a permis de les rencontrer et de raconter leurs histoires. Ouais.
Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Kolia ? Vous la racontez un petit peu dans cet ouvrage.
Alors Kolia avant-guerre, il est chanteur vedette, il est poète, il a une émission de télé à succès. Et puis, comme beaucoup des gens que vous avez vus, il s'est engagé le premier jour. Il vient d'Odessa, Kolia. Odessa, c'est la ville... C'est la ville des petits malins, je dirais. Enfin, les gens sont malins à Odessa. Donc il a cet esprit vif comme ça. Et en fait, ce qu'il me racontait, c'est que les premiers jours, donc il tenait des positions, il était dans la région d'Odessa. Lui, il ne croyait pas du tout à la guerre. C'est-à-dire quand sa mère l'a appelé à 5h30 du matin en lui disant « ça a commencé », lui, il a carrément, il dit « mais c'est quoi qui a commencé ?» Comme beaucoup de gens, il ne croyait pas à cette violence. Il ne pensait pas que ce serait possible. Et donc, il était en train de tenir des positions. Et en fait, quand les officiers disaient aux soldats « allez à l'arrière, vous reposez », il s'est rendu compte que personne ne se reposait, tout le monde était en stress. Tout le monde était sur son téléphone, etc. Et il a commencé à chanter, il a commencé à parler, à dire de la poésie. Et il s'est rendu compte qu'il arrivait à descendre le niveau de stress des soldats. Donc c'est vraiment comme ça. Puis après, il a trouvé une guitare, il a commencé à leur chanter des chansons. Puis il y a un violoniste qui est venu, puis un autre musicien. Puis Et puis après, il avait un ami qui était producteur, Sacha, qui est aussi dans le livre. Et puis ils ont monté ça au début comme une organisation, très informelle. Et là, il y a un peu l'intelligence aussi de l'armée ukrainienne qui, à un moment donné, s'est rendu compte que ce qu'ils faisaient était efficace, que ces gens-là... Alors, dans le cas d'Olga, c'est un peu différent, parce qu'Olga, c'est vous verrez dans le livre, elle est championne de karaté, elle fait des combats de boxe thaï, elle va devenir chef d'orchestre, elle se bat sur le front, etc. Donc, elle, c'est une guerrière. Mais beaucoup d'artistes étaient peut-être plus utiles à aller amener, je dirais, de l'humanité sur le front, plutôt que... C'était moins bons soldats que artistes, je dirais. Et donc, l'intelligence de l'armée ukrainienne a été de rendre officielle cette organisation. C'est devenu les forces culturelles. Ils font aujourd'hui complètement partie de l'armée.
En tout cas, un magnifique hommage que vous leur rendez, bien entendu, dans cette... Dans cet ouvrage. Colia, un petit mot peut-être, a few words about your first meet with Michel Hazanavicius.
How it represents for you? It's not possible to tell in a few words.
Et on va demander à Valérie.
It's a lot of impressions. First time it was United 24 invited me to make public talk with Michel in Ukrainian University of Culture.
C'était pour la première fois la plateforme United 24, qui est la plateforme de soutien de l'Ukraine à l'échelle internationale, dont Michel fait partie.
Yeah, and it was, I don't know, it was in, like interview, public talk with the students in the hall, or it mostly was our conversation, because I was in love with Michel, because he's amazing, he's a very, very huge personality. With very clear soul and one very important quality, he is very brave.
Et c'était la première rencontre parmi le milieu d'étudiants, et dès le premier moment, j'ai tombé amoureux en Michel pour tout son cœur et pour tout ce qui est fait comme un homme.
And you know, during this conversation, I'm a provocateur, so if I need something, I try to do it and push it, but not like straightly, I try to find the right way. So I understood that
Odessa.
This public...
You're from Odessa, right?
Yeah. I'm from Odessa, yeah. Actually, Michel knows Ukraine very well, and different quality of different regions. So when I understood that I will have a conversation with Michel, and so that my task, my mission, to take Michel to the front line, because I know that we will give the safety for him and amazing stories, amazing emotions, which will change something inside. And I asked on this conversation, on this public talk, Michel, will you come to the front line? And he said, yes, I want.
Pendant la première rencontre, Colia avait invité Michel pour rejoindre le front. Et d'abord, Colia salue l'audacité, hein, le courage de Michel de prendre la décision de visiter le front et puis rendre visite aux soldats.
And you know, I met a lot of different world stars. And always when you ask him, will you come to Ukraine, especially when it's abroad? They say yes, but they look in the other corner.
Je connais plusieurs personnalités sur la scène internationale, et quand je leur invite en Ukraine, donc ils portent le regard ailleurs.
When Michel,
ils disent oui, mais ils ne regardent pas dans les yeux. Mais Michel.
When Michel said, I remember this moment that he will come to the front line, to the close to the front line, to the combat zone. He looked in my eyes and understood that it's true. And in few months, he came back and said, okay, I'm ready. You said, yeah, you will prepare everything. Yeah, I'm ready. I have 1.5 weeks, yeah? It was. I'm ready to go everywhere you want.
Quand on a parlé de cette visite sur les lignes de front, il m'a regardé directement dans les yeux. Et c'est là que j'ai compris qu'il va honorer sa parole et effectivement venir au front.
Yeah, and he came to the front line, and we've been in Pokrovsk, under the missiles attack in the basement, yeah, of the house, and smoking shisha in this basement. It's no like windows and nothing, and it's getting more and more smoke inside. So we have very different and amazing adventures. I brought Michel to Barsuk, the bad guy. It's one of the greatest heroes and warriors in Ukraine. He's the commander of drone forces right now. And it was the guy who began the war in 2014. I mean, began the war because when somebody attacks you, it's not the war. It's just, if somebody attacks you, when you give him the response, it's the war. And he was the first who gave the response to Russians in 2014.
Colin avait ramené Michel sur plusieurs endroits et il était très intéressant. Et puis, quand Michel était avec nous pendant cette mission il y a un mois, il y avait des missiles, il y avait des attaques, des drones, etc. à Dnipro. À un moment donné, on était obligé de descendre. Tu te sens bien ?
Oui. Mais c'est une... Là, c'est plus de la traduction, c'est une autre histoire.
Oui, c'est une autre histoire. C'est un petit ajout.
Oui, oui, parce que j'y suis retourné il y a un mois, et effectivement, elle est...
ouais.
Il y avait d'autres aussi.
Et donc, pendant la visite de Michel avec Nikolai, ils ont rencontré une personnalité emblématique de la résistance ukrainienne, un belgeur qui est vraiment très, très fameux en Ukraine pour son exploit militaire.
And you know what I will, what I else want to add, that Michel is very sensitive person. He is amazing artist. We know a lot of different directors and artists, and they have different level of sensitivity. He has the highest one, so we can see that from his movies. And war, it's the place with the high level impressions, and a lot of pain, a lot of painful stories, and I can say that this book is a really treasure because it was written straightly there. I remember how Michel made like notes, and these pictures. So it's not like reflection after; it's something from there. And
ce qui me frappe chez Michel, c'est sa sensibilité. Au sujet, Colin avait vu beaucoup de personnalités à l'échelle globale, mais au top, c'est Michel, avec sa perception, avec ses, son attention au détail. En fait, ce livre a été rédigé sur la ligne de front directement, et on avait vu Michel prendre des notes et dessiner.
And,
La plume.
Yeah, and it feels like he take la plume, put it not in ink, put it in his heart, and write straightly in this book. So I am proud that I am in touch with this book and I am a part of it. So it's a very big pleasure and honor.
On peut faire la référence comme Michel avait dessiné avec de la plume, donc il a pris de l'encre directement de son cœur.
Magnifique image, merci beaucoup pour cette belle image, merci beaucoup. Michel, c'est vrai que les croquis, vous les avez réalisés ultérieurement. En fait, ce qui était important pour vous, c'était vraiment d'écrire des notes sur le vif, en direct.
Mais en fait, enfin, là, le truc est un peu déséquilibré, parce que moi en fait, j'ai essayé de faire un passeur en fait d'histoire, mais les histoires c'est eux qui les vivent,
qui sont les
et
héros.
En fait, là on dirait que enfin, eux ils y sont tous les jours, c'est leur quotidien, etc. Donc je l'ai trempé dans leur cœur à eux pour reprendre sa métaphore. Et donc voilà, oui, j'ai essayé de retranscrire au mieux mon expérience dans ce que eux vivent d'extraordinaire.
Et puis c'est une mosaïque, on va dire, de la société ukrainienne qui pourrait être la nôtre, d'ailleurs.
Oui, complètement. J'ai été frappé de tous les gens que j'ai rencontrés. C'est-à-dire, quand on me demande une espèce d'appréciation globale, je ne sais pas la faire, mais ce sont que des cas particuliers à chaque fois. Valérie, par exemple, a travaillé pendant 25 ans pour l'ONU, où il s'occupait d'organiser des élections dans des pays en Afrique, etc. Lui, il était vedette, mais j'ai rencontré des types qui avaient une usine de meubles, des ferronniers, des soudeurs, des web designers, des graphistes. Et en fait, vous avez effectivement une espèce de panel. Et en fait, chacun a une histoire propre. Moi, ce ne sont que des micro-observations. Donc, c'est encore une fois, c'est pas un truc global. Mais chacun, en fait, il n'y a aucune histoire ne se ressemble. Et en même temps, effectivement, la mosaïque donne une espèce d'instantané, quoi, de ce que j'ai vu.
Et puis surtout, on voit tout le poids, malheureusement, de cette guerre pour toutes ces personnes que vous avez rencontrées, qui ont dû fuir quelquefois leur propre vie, repartir de zéro et tout perdre.
En tous les cas, tout sacrifier. Je crois qu'il y a l'idée vraiment d'un sacrifice, et cette idée qui est un peu terrifiante, de se dire que tout ce qu'on croit que nous sommes, tout ce que nous croyons avoir ou avoir acquis, en fait, tout peut partir du jour au lendemain, et en fait, il faut faire face à ce moment décisif où votre vie bascule et vous mettez tout de côté. C'est autre chose qui commence, qui n'a plus rien à voir. Vous êtes réduit à. Alors, réduit, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous devenez soit un soldat, soit un réfugié, soit un résistant. Mais oui, il y a cette notion de sacrifice. Ouais. J'ai rencontré des. Tolia, qui était celui qui nous conduisait partout, c'était un avocat très à succès, enfin très riche. Bon, ben là, il nous conduisait partout. Voilà. C'est des changements de vie, c'est des trajets de vie, des tournants radicaux.
La personne qui s'occupait de la traduction aussi, la traductrice.
Oui, elle était à Kharkiv, donc il faisait partie des premiers à être bombardés. Et en fait, ils ont, au bout de 15 jours, à descendre et monter dans les abris, et en fait, elle a été obligée de fuir, elle est partie. Et elle est partie à l'étranger, en fait, elle n'a pas supporté son statut de réfugié, c'est-à-dire d'être réduite uniquement à un truc de réfugié. Elle n'a pas. Donc elle est rentrée. Elle n'est pas à Kharkiv, elle est à Kiev, mais elle fait tout pour être utile. Pour aider, pour servir son pays. Ouais.
Michel Hazanavicius, vous avez gardé des contacts fort heureusement, puisqu'ils sont là aujourd'hui. Ils sont dans le livre aussi, mais bien entendu, je pense que des personnes, peut-être, qui sont dans ce livre ne sont plus.
Je ne sais pas. La dernière fois que j'y étais, c'était il y a un mois, j'ai vu Kolia, donc à Kiev, et j'y étais pour ramener justement des bouquins. Et il m'a demandé, j'en ai signé pour plusieurs qui sont dans le livre. Et bon, j'ai pas eu de mauvaises nouvelles, j'espère que tout va bien pour tous.
Alors, les bénéfices de ce livre, Michel Hazanavicius, c'est au profit de la plateforme de recettes de fonds, l'association United 24. Vous pouvez nous la présenter?
Oui, c'est pas une association, c'est une plateforme de dons. Donc, même si vous voulez pas acheter le livre, vous pouvez donner sur cette plateforme. Vous pouvez acheter le livre et donner sur cette plateforme. Et c'est hyper simple, vous allez sur Internet. C'est une plateforme qui a été créée par le président Zelensky. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette vente aux enchères au tout début, qui a rapporté 250 000 euros, j'avais un peu des scrupules à l'envoyer à une organisation, une ONG qui s'occupe de plein de choses avec des frais d'organisation, etc. Et quand il l'a créée, cette plateforme, et j'ai pu l'envoyer directement. Et vous pouvez flécher l'argent, vous pouvez décider où ça va, si vous voulez, pour la reconstruction, pour la médecine, pour le déminage, pour les drones, l'armement, etc. Et vous savez concrètement où va votre argent. Donc voilà, cette plateforme aujourd'hui, elle est à plus de 1,5 milliard de dons. Donc c'est vraiment un truc sérieux.
Voilà, donc il faut acheter le livre. Michel Hazanavicius vous le dédicacera dans un instant, bien entendu. Et ce livre essentiel, parce que moi j'adore les titres, l'homme souriant, l'homme de la nuit, l'homme qui se marre, l'homme tranquille, le mec normal, voilà.
Tous les soldats de l'armée ukrainienne ont un surnom. Moi j'ai pas mis forcément les surnoms, mais ils ont tous The Producer. Toi t'es The Producer?
Ouais, le producteur, The Producer, I think. Yeah.
Ouais. Right. Mais ça a changé, au début c'était la vedette, lui. Hein. At first you were... Ah oui, c'était le touriste. Parce qu'en fait, non, mais, enfin, il faut expliquer pourquoi, c'est qu'il avait une émission de télé dont le concept était hyper bien, je vous le dis. Il avait, et l'histoire est disons touchante, il était avec une co-réalisatrice, co-animatrice, pardon, et en fait, au début, il tirait à pile ou face, c'était une travel show, une émission de comme ça, il tirait à pile ou face, celui qui perdait devait visiter une ville avec, je ne sais plus, $100 pour une semaine. Mais celui qui gagnait, il avait genre budget limité. Donc il y en avait un qui avait des hôtels 4 étoiles, des trucs et tout, et l'autre qui galérait et tout ça. Donc il a fait cette émission pendant plusieurs années. C'était une émission très talentueuse, etc. Et puis ce qui s'est passé, donc c'est pour ça qu'il l'appelait le touriste. Et en fait, et ce qui s'est passé, c'est que sa co-animatrice, au moment où l'invasion a commencé, elle était mariée avec un Russe et elle est partie à Moscou et ils n'ont plus jamais vu.
Actually, from that days, I always have a coin with me. Life has two sides, and when I need to make decision, I use it. From one side, it's reading that Memento Mori, remember you must die, and another one, Memento Vivere, remember to live.
Donc maintenant, il a toujours cette pièce avec lui. Quand il doit prendre une décision importante, il tire comme ça. Sur d'un côté, c'est n'oublie pas que tu dois mourir, que tu vas mourir. Et de l'autre, c'est n'oublie pas que tu dois vivre.
Ce qui est très beau aussi. Ce qui est très beau aussi, Michel Adenavicius, c'est la couverture. Hein. La couverture, vous l'avez vu tout à l'heure jouer du violon. C'est Olga que vous avez choisi en couverture avec ce SMS qu'elle envoie à sa maman.
Oui, alors il y a deux personnes qui sont dans le livre, qui sont là aujourd'hui. Il y a Olga.
Olga qui. Voilà, qui
donc vous aurez vraiment toute son histoire. C'est Olga, je l'ai appelée super-héroïne.
Mais... Ah, Olga, rejoignez-nous, vos applaudissements pour Olga. Olga, on parle de vous.
Actually, when I was there, secure us from Russians.
Olga, quand je l'ai rencontrée, elle avait 24 ans. Aujourd'hui, elle en a 25. Et moi, j'ai 58 ans. Vraiment, je me suis senti comme un gamin, quoi. Vous lirez son histoire, c'est assez incroyable. Je l'ai appelé super-héroïne et je suis vraiment très en dessous de la réalité.
Avec des performances sportives aussi, incroyables.
Mais en gros, elle est championne d'Ukraine et d'Europe de karaté. Elle a fait des combats de boxe thaï. Elle va devenir chef d'orchestre. Elle est virtuose du piano et c'est une guerrière.
Michel, permettez-moi de vous poser cette question. Il y a aujourd'hui cet ouvrage. Est-ce qu'il pourrait y avoir demain, je ne sais pas, un film, un documentaire sur ce que vous avez vécu, votre expérience?
Écoutez, à chaque fois on me demande, je ne sais pas. En fait, mon engagement, ça n'a pas été un engagement de cinéaste, dans le sens où je n'ai pas cherché à faire un film. Ce n'est pas ça qui était important pour moi. Je l'ai fait en tant qu'être humain ou citoyen, appelons ça comme on veut. Et donc voilà, les films, le processus de choix de m'engager sur un film, il est très particulier. Les films, c'est comme s'ils venaient à moi plus que moi vers eux. L'Ukraine, c'est un peu différent, c'est vraiment un engagement qui est plus réfléchi, enfin qui est plus personnel, je dirais. Et voilà. En même temps, là, je viens de finir l'écriture d'un film. Ça ne parle pas directement de l'Ukraine, mais le voyage que j'ai pu faire, qui évidemment a changé beaucoup de choses en moi, a une influence quand même directe sur mon prochain film.
On a hâte de le découvrir.
Ce sera mon prochain film si je trouve l'argent.
On va peut-être pas en parler, c'est un peu trop tôt pour en parler aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. C'est bien qu'on avait vu également La plus précieuse des marchandises l'année dernière, un fabuleux film, magnifique. Avec ces artistes, mais les artistes qui sont là, ouais, c'est vous tous, les artistes, c'est vous aujourd'hui. Est-ce que je peux me permettre de vous poser également une question sur l'actualité ukrainienne, des rencontres là, récemment, à vous Michel et peut-être également à Olga, enfin à vous tous, pour effectivement une réunion en Ukraine, excusez-moi, en Turquie, des espoirs de cesser le feu, bon, on n'y croit pas trop malheureusement. Il y a eu ces délégations russes et ukrainiennes qui se sont rencontrées pour la première fois. Elles se sont accordées sur un échange de prisonniers. Quels sont vos espoirs aujourd'hui de paix
You know, Ukrainians can live in two spaces, two reality at one time. From one time, we kill the hope to be concentrated here and now and doing everything we can in this moment. And with that, we live with the hope, because sometimes we just jump from one railway to another one. When we need these resources, we jump to the world of hope. And we see the future, we led us to feel the best kind of future, and then we came back to this reality line. We go there.
L'Ukraine vit en fait en deux extrémités. Hein. C'est de tuer l'espoir et donner de l'espoir. Donc on cherche des ressources de deux côtés et on cherche des ressources. Et on est très capable de le faire parce que c'est notre art d'être en deux états en même temps.
Et la cohésion, pensez-vous que la cohésion européenne peut jouer un rôle déterminant?
Yes, of course, that's why we're here. That's why we're here, and we understand, and Europe began to understand more and more the role and the meaningful of Ukraine in these times, because actually, here is writing everything. Democracy stands because Ukrainian infantry stands, because the biggest pressure on the guys who stay in trenches and dugouts and all the new technologies like drones, FPV drones and etc., artillery, and they holding the border between evil and kindness, between Europe and that part of the world.
C'est exactement la cohésion européenne qu'on a vécu pour. La meilleure représentation, c'est ici, cette installation dont j'ai fait référence avant. Mot par mot, democracy stands because Ukrainian infantry stands. La démocratie tient parce que l'infanterie ukrainienne tient. Ce jour, on avait posé plusieurs questions concernant pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes venu. On est venu pour que la prochaine édition de camp se tient.
Moi, je dis, les forces culturelles aujourd'hui, elles ont deux directions. La première, c'est effectivement, et c'est la principale, aller amener des petites, comme des parenthèses de paix aux soldats qui se battent sur le front, et puis il y a ce qu'il fait là, qu'il a fait aux États-Unis, qu'il fait à Bruxelles, etc., c'est-à-dire aller rappeler ou faire exister l'armée ukrainienne, la cause ukrainienne, dans des endroits de décision, rencontrer les gens, faire ce qu'il fait là, etc., pour que à minima, on n'oublie pas ce qui se passe, et puis à partir du moment où les gens, nous ici, tout le monde, nos familles, tout le monde, si on n'oublie pas que des chaînes de solidarité et d'aide puissent se mettre en place, et l'opinion publique, elle est primordiale aussi pour que les gens qui décident prennent les bonnes décisions. Donc c'est aussi ce qui fait toute l'année.
Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Michel Azanavicius et les forces culturelles ukrainiennes qui nous ont offert ce moment unique.